Ce dont je vais vous parler, c'est effectivement quel a été notre voyage vers l'agilité et le DevOps. Donc, quand on regarde ce paysage, on peut se dire que c'est une belle route droite avec un beau paysage. On sait où on va, on y va tout droit et tout se passe super bien. Dans la réalité, ça a quand même été plutôt comme ça. Donc, beaucoup de virages. Quelques montées difficiles, quelques descentes aussi difficiles. On a beaucoup appris, on s'est beaucoup remis en cause. Et on a profondément modifié notre culture. Et je vais probablement beaucoup insister sur ce point, parce que je pense que c'est le plus important. On peut parler de méthodologie, on peut parler de technologie, je vais évidemment en parler un peu, mais pas tant que ça. Je vais beaucoup insister sur ce que l'on a appris, à la fois de nos succès, mais aussi et surtout de nos échecs. Donc, agilité et DevOps, ça a été exprimé en d'autres termes par Guillaume. Je pense que un des problèmes de fond auxquels toutes les entreprises sont confrontées aujourd'hui, c'est que on est dans un monde de plus en plus rapide, de plus en plus véloce, qui se transforme de plus en plus vite, que ce soit sur le plan technologique ou sur le plan de ses modèles d'affaires. Et donc, les opportunités vont et viennent. Et si on n'est pas capable de les saisir, malheureusement, les opportunités sont parties et on se retrouve dans une situation où on regarde le train passer et malheureusement, on l'a loupé. Et donc, fondamentalement, un des objectifs majeurs de l'agilité et du DevOps, c'est de faire en sorte que l'on puisse mettre entre les mains des utilisateurs plus d'innovation, plus vite. Ça ne veut pas dire qu'une tâche de développement, quelle qu'elle soit, va par la magie de la méthodologie faire que, au lieu de passer 100 jours pour développer quelque chose, on va passer 10 jours. Ça, c'est juste illusoire de penser ça. Par contre, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse mettre entre les mains des utilisateurs des incréments fonctionnels beaucoup plus rapidement dans une logique où les utilisateurs puissent nous retourner leurs commentaires le plus rapidement possible et potentiellement créer de la valeur plus rapidement. Et quand on regarde un peu le sujet de l'agilité, parce qu'au départ, ça peut démarrer par ça, on se rend compte que pour de très nombreuses entreprises, c'est un défi très compliqué à relever. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose de compliqué. Typiquement, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, nous, en sachant que, encore une fois, on a fait beaucoup d'erreurs et on a beaucoup appris de ces erreurs. Donc, on a parlé de Visual Studio un tout petit peu. Samuel y reviendra tout à l'heure. Je vais beaucoup me servir de Visual Studio. J'ai beaucoup hésité entre les différents groupes produits à choisir tel ou tel. Et je me suis rendu compte que parler de Windows, c'était... Je vais en parler un peu en particulier d'une aventure technologique un peu ratée qu'on peut assimiler à un échec industriel qui est Windows Vista, qui est peut-être cher à vos mémoires ou pas cher d'ailleurs. Mais les prérequis pour appréhender la façon dont Windows développe étaient trop complexes. Même chose pour Azure, il y a trop de choses à savoir pour être capable de le présenter de manière simple. L'avantage de Visual Studio en tant que tel, c'est que c'est un produit finalement à la fois simple à comprendre, qui a entrepris la démarche de passage dans le cloud et qui est, je pense, très très illustratif dans la façon de fonctionner. Je ferai en permanence des détours par d'autres produits, mais l'avantage, c'est que ça permet de fixer les idées. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, Visual Studio en tant que tel peut être instancié à la fois dans une version sur place, à travers Team Foundation Server, et dans une version online, à travers Visual Studio Online. Et donc, fondamentalement, si on imagine un développement traditionnel, ici, j'imagine un sprint, on reviendra sur la façon dont les sprints sont organisés dans un petit instant. L'objectif de sprint, c'est d'être mis en production. Je reviendrai sur ce point, tout ce qu'on développe est mis en production à la fin de chaque sprint. les sprints font 3 semaines en l'occurrence. Donc toutes les 3 semaines, peut-être un peu plus parce qu'en général il y a une semaine de plus pour la mise en production, c'est poussé en ligne systématiquement. Et donc chaque sprint, on pousse en ligne. Et puis ensuite, on se dit, ben voilà, on en a suffisamment fait. On peut prendre l'équivalent d'un instantané, une photo de la situation, et ça correspond à une version de Team Foundation Server que l'on propose à nos clients. Et donc, bien sûr, oula, qu'est-ce que j'ai fabriqué ? Il faut que je retrouve ma souris. Voilà. Et donc, évidemment, ça se répète. Donc, en gros, tous les trimestres, on a une nouvelle version qui arrive de Team Foundation Server. Ça peut être éventuellement tous les 6 mois, ça dépend des organisations. Et donc ça, c'est ce que l'on a voulu faire pour Visual Studio quand on est passé au cloud. Quand on regarde pour un autre logiciel, qui en l'occurrence est Exchange, on a exactement la même démarche. On a Exchange Server qui tourne dans les data centers de nos clients et de nos partenaires. On a Exchange Online qui tourne dans l'environnement Office 365. On a une symétrie complète des environnements, des builds. Et donc, on a une seule équipe, une seule base de code. Et on va déployer d'abord dans le cloud, dans une logique de continuous déploiement. Et en fonction des cadences de release que l'on a exposées de manière public vis-à-vis de nos clients, on sort des mises à jour cumulatives, des services pack et éventuellement une version suivante qu'on incrémente mais qui dans la pratique n'est rien d'autre que la continuité opérationnelle des versions que l'on met en place dans le cloud. On a parlé de Windows, même logique, depuis Windows 10, Windows est livré comme un service. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on release Windows à travers ce qu'on va appeler des anneaux d'usage qui correspondent à un cercle de plus en plus grand d'utilisateurs. Au départ, on s'inflige, si j'ose dire, notre propre poison. Donc au sein de l'engineering, évidemment, on teste. Ensuite, on fait un déploiement en interne pour les utilisateurs de Microsoft qui sont intéressés par ce mode de déploiement. On continue à travers les Windows Insiders qui, à l'extérieur de Microsoft, peuvent bénéficier des builds au fur et à mesure qu'elles sortent. Et ensuite, on continue avec ce qui s'appelle Current Branch, qui en l'occurrence est la version officielle supportée par Microsoft, qui en général va être mise à jour tous les 4 mois, puisque c'est la fréquence que l'on a communiqué publiquement à nos clients. Et puis derrière, on a ce qu'on appelle Current Branch for Business, qui en l'occurrence est une déclinaison de Current Branch, mais sur lequel on a la possibilité de rester pendant 2 périodes, donc en fait 2 x 4, 8 mois. Donc on est effectivement passé dans ce mode sur l'ensemble de nos produits. On parlait tout à l'heure de la vitesse de déploiement. Je pense que le cas le plus extrême pour nous, c'est probablement Yammer, où en fait on pousse en production plusieurs évolutions chaque jour. C'est probablement le cas le plus extrême, mais c'est la logique dans laquelle on est. Alors pour réussir à faire ça, on a eu la nécessité de déconstruire le management des équipes agiles, pour passer à l'agile en fait. Et pourquoi est-ce qu'on a dû faire ça ? Parce que, et c'est un point sur lequel je suis revenu, je reviendrai un tout petit peu après, on a eu une expérience très très cuisante qui est l'expérience de Windows Vista. Vous vous souvenez probablement de Windows Vista, une version qui sort. Au bout de 5 ans, au lieu des 3 ans initialement prévus, version qui sort avec aucun logiciel, aucun pilote de périphérique et pratiquement aucun hardware. Autrement dit, une version qui servait fondamentalement à rien. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette catastrophe industrielle ? Parce que c'est vraiment de ça dont on peut parler. C'est parce qu'en fait, on a eu un énorme problème de passage à l'échelle. On reviendra sur la question du passage à l'échelle des environnements agiles et DevOps, mais le passage à l'échelle, c'est un sujet extrêmement compliqué. Il faut imaginer que Windows Vista, on va dire Au pic de son développement, il y avait à peu près 7500 développeurs. On avait l'habitude d'organiser les équipes toujours de la même façon depuis presque l'origine des temps ou pas loin chez Microsoft. Et puis, la taille augmentant, on a créé une hiérarchie dans les équipes produits où entre le développeur de base et Bill Gates, à l'époque, il y avait 11 strates de management. 11. Le bilan, c'est qu'à chaque fois qu'il fallait prendre la décision d'intégrer telle ou telle fonctionnalité à travers la fusion d'un certain nombre de branches de code, 80 personnes étaient impliquées dans le processus de décision. Inutile de vous dire que le développement lui-même s'est effondré sous la lourdeur bureaucratique de cette organisation. Et donc c'est suite à ces mésaventures qu'il a fallu repenser de façon assez fondamentale notre organisation, la façon de manager les équipes, en sachant qu'en parallèle, et c'est un point sur lequel je reviendrai, on mesure chaque année la satisfaction des collaborateurs. Partout dans tout Microsoft, c'est les mêmes questions qui sont remplies par tous les collaborateurs de Microsoft. Et entre les groupes de développement et, on va dire, le terrain, vente, marketing, consulting, support, il y avait, pendant ces périodes-là, des écarts de satisfaction des collaborateurs qui étaient entre 8 et 10 points. Statistiquement, très significatif, donc des énormes écarts de satisfaction, en sachant que les groupes produits étaient de très très loin les moins satisfaits. Donc, on a commencé un peu à réfléchir sur la façon de déconstruire ce management. Donc, manager, j'ai pris de façon volontaire un exemple un peu provocateur dans une définition, en l'occurrence, d'un dictionnaire anglais bien connu. Donc, discipliner ou contrôler une personne ou un animal. C'est la définition que j'ai trouvée la plus parlante par rapport au sujet dont on voulait parler. Et on se rend compte que finalement, le management, traditionnellement, c'est beaucoup de contrôle, avec un intérêt extrêmement limité porté à l'environnement dans lequel les collaborateurs travaillent. Et toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cet environnement soit un environnement propice, en sachant bien sûr qu'un environnement tel que celui-là, si on plante des graines, il y a de bonnes chances qu'il donnera beaucoup moins que celui-là. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui peut créer un bon environnement pour les équipes ? On a trouvé essentiellement trois grandes classes de critères. La motivation, sujet évidemment important. Ce que j'ai appelé objet, règle, point, mais c'est par allusion à un jeu de rôle. Dans la pratique, c'est quoi le but du jeu et comment je peux gagner en tant que collaborateur. Et puis, d'une manière générale, ce que j'ai appelé la liberté de religion, et je vais revenir sur ce point parce que c'est un point extrêmement important. Souvent, on confond méthodologie et religion. Et je pense qu'il faut évacuer ce sujet. Donc en termes de motivation, quand on regarde un tout petit peu quelques bouquins qui ont été écrits dans la littérature, c'est un bouquin qui est plutôt autour de la psychologie et de la sociologie des groupes, qui est très intéressant. Il y a une version française d'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pourrez jeter un petit œil à ce bouquin de Daniel Pink. Il insiste en fait sur trois éléments qui sont l'autonomie, la maîtrise et le sens. Et il essaye de démontrer en quoi la façon traditionnelle de manager qui repose essentiellement sur carottes et bâtons, je punis ou je récompense en fonction de la façon dont le collaborateur a fonctionné, on se rend compte que, quoi qu'on en dise, et paradoxalement, même le fait d'avoir une belle carotte, ce n'est pas forcément ça qui est suffisant pour motiver un collaborateur. Et vous avez probablement été confronté à ce genre de réalité plus d'une fois. Et il insiste sur trois éléments importants. L'autonomie, cette capacité qu'on a de diriger nos propres vies, qui peut paraître un détail, mais qui est extrêmement important, et en particulier au niveau des équipes techniques et des développeurs. La maîtrise, cette capacité que l'on a d'exceller dans un domaine et de faire en sorte que cette excellence soit reconnue et valorisée par ses pairs. Et enfin, le sens, c'est-à-dire avoir la capacité de relier ce que l'on fait au sens que l'on peut donner à son travail et plus généralement à sa vie. Et quand vous regardez l'Agile Manifesto, que de temps en temps, il est utile de relire, on se rend compte que dans ce manifeste, tous ces éléments, autonomie, maîtrise, essence, sont extrêmement présents. On voit qu'on va privilégier les individus et leurs interactions par rapport à des processus et à des outils. On va valoriser un logiciel fonctionnant plutôt qu'une documentation complète, exhaustive et éventuellement pléthorique. On va favoriser la collaboration avec les clients plutôt que des relations contractuelles et des négociations de contrats. On va répondre au changement plutôt que de suivre un plan défini plusieurs années à l'avance. Et donc, dans cet environnement-là, on se rend compte qu'on favorise effectivement l'autonomie, on reconnaît la maîtrise et on donne du sens. Concernant objet, règle et point, fondamentalement, l'idée, c'est de définir pour chaque collaborateur, et vous verrez que ça a eu un impact assez fondamental sur la façon dont on gère nos ressources humaines, puisqu'en fait, on a complètement changé la façon dont on évalue nos collaborateurs. Je reviendrai sur ce point après, parce que c'est un élément extrêmement important qui montre à quel point la transformation, ce n'est pas juste le fait de dire « je fais de l'extreme programming » ou du Scrum, ce n'est pas la question. La question, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on transforme la culture des organisations, la culture des entreprises. Et typiquement, sur un sujet comme ça, on a pris la décision de ne plus mesurer les performances de manière individuelle, mais collective. Donc, on mesure des performances d'équipe plutôt que des performances individuelles. Je reviendrai sur ce point quand je parlerai des modèles d'équipe, parce que c'est un point absolument fondamental. Et puis, c'est la liberté de religion. Donc, on va trouver, y compris dans le même groupe produit, même s'il y a un certain nombre de règles entre guillemets obligatoires telles que Scrum, mais si quelqu'un a envie de faire du test-driven development par exemple ou de l'extreme programming parce qu'il se sent bien en faisant ça, pourvu qu'il suive un certain nombre de règles, et on reviendra sur ce point après, il a le droit, s'il est bien dans son équipe, à faire de l'extreme programming, donc en gros la programmation par pair, eh ben, il peut le faire, il est libre de choisir comment il le fait. On impose un certain nombre de choses, on va voir comment, mais on laisse dans les équipes individuelles l'autonomie de choix pour être capable de se sentir le mieux, parce que finalement, c'est le genre de sujet sur lequel jusqu'à présent on était très impliqué en voulant imposer la même méthodologie du haut en bas, et c'est un sujet sur lequel on a revu complètement la façon dont on voyait les choses. Donc, comment est-ce qu'on a déconstruit le management de nos propres équipes ? Donc, je vais aller très vite sur ce qu'on faisait avant, mal, avec un peu de sarcasme. Donc, Visual Studio, que je prends comme exemple, on avait en général un planning de 2 ans, avec une première phase qui était une phase de planning, ensuite 2 milestones, milestone 1, milestone 2, il pouvait éventuellement y en avoir un troisième. Donc, évidemment, on écrivait des tonnes de specs. Ces specs, évidemment, elles étaient parfaites, on savait exactement ce qu'il fallait construire et on savait que c'était forcément les bonnes choses. Ensuite, on passait une phase de bêta, on avait une phase de RTM, Release to Manufacturing, qui consistait globalement à dire, ben voilà, le produit il est prêt. On avait évidemment un planning parfait, on savait exactement quand la version serait prête, c'est exactement ce qui s'est passé pour Vista. On savait exactement quand la version serait prête, il se trouve que malheureusement, on s'était juste trompé de 2 ans. Sur 3 ans, ça fait quand même beaucoup. Évidemment, on avait des estimations parfaites. On savait comment tout allait se synchroniser. Donc, en gros, comment ça fonctionnait. On avait une phase de codage. On codait, 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 codait. On avait d'ailleurs, à la fin, quand on était code complete, une fête. Donc, en fait, on célébrait le fait qu'on était code complete. Puis après, il y avait juste un peu de stabilisation et de test à faire, puis c'était bon. En théorie. quand on avait des commentaires de nos clients, bah, c'était bien. En fait, les commentaires, on les recevait par exemple quand démarrait la bêta. Puis éventuellement, ils nous disaient, bah, vous avez choisi telle fonctionnalité, de l'implémenter de telle façon, et puis malheureusement, ce n'était pas exactement ce qu'ils voulaient. Et donc, le problème, c'est que le planning était déjà défini, Milestone 2 était déjà plus ou moins lancé, donc c'était trop tard. Donc, comme en fait, on était poli avec nos clients, on leur disait, ben, super feedback, merci beaucoup. On va voir comment on va pouvoir traiter votre demande dans le planning de la prochaine version. Et donc, vous aurez ce que vous voulez dans plusieurs années. Donc ça, c'était la façon dont on fonctionnait avant. Et pour être franc, ça a fonctionné très bien. Tant qu'on livrait globalement des logiciels tous les 2-3 ans, qu'on les livrait sous forme de CD ou de DVD qu'on envoyait à nos clients, c'était un rythme serein, tranquille. Ça a bien fonctionné. Ça a permis d'ailleurs à Microsoft de devenir ce qu'est devenu Microsoft. Mais il y avait quand même un certain nombre de problèmes. Évidemment, et on reviendra sur ce point, on accumulait la dette technique parce qu'on avait codé. Malheureusement, on avait aussi codé plein de bugs. Et donc, quand il fallait les corriger, il y en avait beaucoup. On n'avait strictement aucun moyen de réagir par rapport au retour de nos clients. Le succès vis-à-vis de la version, c'était en mode « ça passe ou ça casse ». Et puis, fondamentalement, il y avait très peu d'autonomie des équipes. Donc, j'ai parlé de Windows Vista. On a dit à quel point c'était difficile de passer à l'échelle. Quand on regarde un peu l'organisation d'une pyramide managériale traditionnelle dans des équipes informatiques quelconques, on a en général, en bas, des développeurs, des testeurs, des personnes en charge de la production. En général, ces gens-là maîtrisent une certaine forme de science. Et puis, au-dessus, c'est-à-dire en gros dans le restant de l'organisation managériale, ce n'est plus vraiment de la science, c'est plutôt une certaine forme d'art. Sachant que, dans un contexte tel que celui-là, l'art peut éventuellement conduire à jouer très faux. Parce que tout simplement, passer à l'échelle, ça nécessite de se poser tout un tas de questions sur la façon dont on synchronise le travail de différentes équipes, la façon dont on va, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte qu'au niveau au-dessus, on ait une vision qui soit un peu dynamique et pas simplement statique. Et donc, c'est vrai que les méthodes agiles dont on parle très souvent, elles ne sont pas prévues naturellement et conceptuellement pour passer à l'échelle. Ça marche très très bien sur des équipes de petite taille, de taille raisonnable. Dès qu'on commence à passer à des équipes de plusieurs milliers de personnes, parce que c'est de ça dont il s'agit, le mode opérationnel, il n'est pas forcément si bien documenté que ça. Donc ça, en général, on le faisait plutôt bien. Par contre, au-dessus, c'était un peu moins simple. Donc en fait, on s'est fixé, par rapport à cette pyramide, un objectif qui est de dire on va donner de l'autonomie aux équipes. Parce que c'est à la fois ce qui va les motiver, mais aussi ce qui va rendre, d'une manière générale, le processus beaucoup plus agile. Au-dessus, on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit correctement aligné, sans pour autant que ça rogne sur l'autonomie. Donc vous rendez bien compte que le problème, c'est que s'il y a trop d'alignement, le cas que je citais tout à l'heure, avec l'exemple de Vista, dans lequel il fallait 80 personnes pour décider de faire le check-in d'une fonctionnalité, il arrive un moment où la bureaucratie fait que rien n'avance, on est complètement coincé, tout le système est complètement bloqué. Si, à l'inverse, il y a de l'autonomie partout et qu'on dit aux gens, ben voilà, l'agile, ça ressemble à ça, faites ce que vous voulez, il y a de bonnes chances que ça se termine par un chaos plus ou moins artistique. Donc la question, bien sûr, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à construire un juste équilibre. Donc on s'est défini un certain nombre de principes de base, où en termes d'organisation, de rôle, d'équipe, de cadence et de taxonomie, donc que tout le monde soit à peu près d'accord sur ce qu'on fait, ça c'est la partie dite alignement. Donc en fait, tout le monde à l'intérieur d'une division, d'un groupe produit fonctionne de la même façon. Par contre, le planning, le suivi du backlog, les pratiques sont laissées aux bons soins de chacune des équipes. Et donc l'idée, c'est comme je le disais tout à l'heure à propos du bouquin de Daniel Pink, de donner aux équipes autonomie, maîtrise, essence, qui sont les éléments les plus importants pour ce que l'on peut en considérer aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on a changé ? On va voir comment on a changé nos rôles, notre organisation, nos équipes, notre rythme, notre plan et nos pratiques. Donc au début, quand on a commencé tout ça, on avait des rôles bien connus, bien définis chez Microsoft depuis longtemps, avec des program managers qui en gros s'assurent qu'on construise les bonnes choses, des développeurs évidemment, et puis des testeurs. Donc au début, notre modèle d'organisation, c'était en gros ça. On avait des program managers, des développeurs, des testeurs, et on a créé, je vais revenir sur ce point juste après, des équipes dans lesquelles on avait un program manager, qui en général jouait le rôle de product owner au sens scrum du terme, un développeur et un dev lead qui étaient dans la même équipe, et puis des testeurs. Donc ça, c'était l'organisation initiale qui avait comme caractéristique, point déjà très important, que dans cette équipe, il n'y avait pas de manager. Donc on parle bien de créer une organisation dans laquelle les program managers sont gérés par des program managers, sont managés par des program managers, des développeurs par des développeurs, des testeurs par des testeurs, mais quand on crée une équipe individuelle qui va avoir comme fonction de délivrer un sprint et de le mettre en production, cette équipe, en tant que telle, n'a pas de manager. Donc quand on parle d'autonomie, ce n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Ensuite, on s'est dit, développeur-testeur, le gros problème que ça pose, c'est que, bien souvent, on considère un peu les testeurs comme étant des développeurs de deuxième zone. Quand un testeur découvre un bug, ben, en général, comme ce n'est pas lui qui est développeur, il se dit ben, « ce n'est pas à moi de le corriger ». Il donne ça, il rajoute ça dans le backlog et puis il dit ben, « voilà, débrouillez-vous, j'ai trouvé ce bug ». Et le résultat, c'est que finalement, les testeurs n'étaient pas autonomes du tout. Et paradoxalement, on pouvait imaginer qu'un développeur laisse des bugs dans son code en disant ben, « le testeur les trouvera bien, puis on verra après ». Donc on a pris la décision de regrouper les équipes de dev et de test en une seule équipe, dite d'engineering, sans aucune différence entre les deux, en sachant que, du coup, ça nous a permis de recruter des testeurs de très bonne qualité, que sinon on n'aurait pas réussi à recruter dans un modèle où les testeurs avaient l'impression d'être, entre guillemets, des développeurs de seconde zone. Or, le test, c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas se permettre, surtout dans un environnement dans lequel on met en production chaque sprint, de faire n'importe quoi avec le logiciel qu'on produit. Et puis, notre organisation courante, elle a vu l'arrivée de toutes les personnes en charge du service délivré, donc en fait de la production ou des opérations, qui ont rejoint l'équipe, en sachant que on a des équipes qui sont quand même un peu à part. La partie UX, donc la partie user experience, où on va trouver des designers qui sont en général managés dans des équipes à part, mais qui dans la pratique sont intégrés en direction du program manager pour apporter cette compétence unique qui est la compétence du design. Et puis, toute la partie documentation qui est en général également logé dans une équipe à part. Donc quand on regarde un peu la façon dont on constitue des équipes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend un program manager, qui est en général le product owner, on prend une équipe d'engineering, et puis on constitue cet environnement. Donc quand on a commencé à fonctionner dans cet environnement, toute la division qui crée Visual Studio, donc ce qu'on appelle la développeur en division chez nous, elle avait dans la réalité à sa tête un triumvirat. Parce que tous les développeurs étaient managés par des développeurs, tous les testeurs par des testeurs, tous les développeurs par des développeurs. Donc en fait, à la tête, il y avait trois personnes. Puisque chaque équipe, encore une fois, n'a pas de manager. Donc on est aujourd'hui dans une logique où on a des équipes qui sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas des équipes qui sont que des développeurs ou que des testeurs, si on imagine qu'il y a encore cette nuance, ou que des product managers. Les équipes sont, par essence même, pluridisciplinaires. Elles font entre 10 et 12 personnes, elles sont autogérées, comme je le disais tout à l'heure. Elles ont en charge la gestion autonome du backlog, pour ce qui les concerne. On essaye de faire en sorte qu'on les maintient en l'état pendant à peu près 12-18 mois. On ne veut pas être dans une logique de randomisation permanente. Et, chose très importante sur le plan culturel, je ne sais pas si vous avez déjà visité le campus de Redmond chez Microsoft. Ce campus, il était organisé dans une logique où chaque développeur a son bureau. Avec une logique qui est très proche de pas mal d'entreprises françaises, où en fait, quand on est, on va dire, débutant ou stagiaire, on a un bureau au milieu sans fenêtre. Quand on est un peu plus aguerri, on se rapproche de la fenêtre et donc on a un bureau avec une fenêtre. Et quand on est chef, on est dans un coin parce qu'on a deux fenêtres. Vous avez sûrement reconnu ça dans vos entreprises avec, je ne sais pas, ça peut être les étages, l'épaisseur de la moquette, enfin bref, vous connaissez ça certainement. Ce mode de fonctionnement, quand on est dans une logique agile, ça ne fonctionne juste plus du tout. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un daily stand-up, par exemple, dans lequel chacun se lève dans sa propre salle et communique à travers Skype pour dire « je suis debout en train de discuter de ce qu'on va faire dans la journée ». C'est complètement débile. Donc on a pris la décision lourde sur le plan culturel de dire « on va créer des salles d'équipe ». Donc on a démonté totalement tous les bureaux et on a créé que des salles d'équipe. Donc en fait, tout le monde, y compris le corporate vice-président en charge de la division, est dans une salle d'équipe. Donc, changement culturel, changement organisationnel très important. Sur le plan RH, cette transformation, elle a eu plusieurs conséquences. D'abord, elle a donné au manager un rôle complètement différent. Typiquement, le manager n'est plus là pour punir ou récompenser. Le manager, il est là pour faciliter le travail dans une organisation où il va avoir la responsabilité des gens qui font le même métier que lui, si j'ose dire. Encore une fois, développeur manage des développeurs. Mais par contre, il n'a plus en responsabilité chaque équipe individuelle qui constitue la base du fonctionnement en mode agile. Donc ça veut dire que le manager en question, il n'est plus là pour distribuer, comme je le disais tout à l'heure, les carottes et les bâtons. Il va être là pour faciliter les éventuelles difficultés rencontrées dans les équipes. Qu'est-ce qu'on a rencontré comme type de difficultés? Je vais en citer deux. La première, c'est que, comme j'ai dit qu'on avait basculé dans un mode d'évaluation de la performance où on mesurait les performances d'une équipe, donc en fait, une équipe réussit ou échoue ensemble. La conséquence directe, immédiate sur le plan managérial, c'est que si pour une raison ou pour une autre, il y a, entre guillemets, vu des autres, une brêle dans l'équipe, pardonnez-moi l'expression, la brêle est évacuée par l'autre, par l'ensemble des autres membres de l'équipe. En mode, tu nous ralentis, tu vas planter notre résultat à la fin, etc. etc. Donc la conséquence, c'est que le manager de la personne en question a besoin de s'impliquer pour la résolution de ce problème. Est-ce que la personne, elle est mal dans l'équipe dans laquelle il est? Est-ce qu'il n'a effectivement pas les compétences auquel cas il faut le former? Est-ce que dans la réalité, c'est parce qu'il est dans une équipe de stars et qu'en fait, comme toujours, entre les stars, c'est toujours un peu compliqué la vie? Bref, le rôle du manager devient centré sur la résolution de ce genre de problème. Deuxième problème qu'on a rencontré, quand on est mesuré en termes de performance, en termes d'équipe, on peut, si pour une raison ou pour une autre, on est un peu en retard par rapport à ce qu'on avait présenté comme calendrier potentiel, on peut avoir tendance à surinvestir et donc à rentrer dans des logiques de burn-out. Et donc, un des sujets sur lequel le manager a besoin, en collaboration avec les autres managers qui sont impliqués dans l'équipe, ils ont besoin de se pencher sur ce genre de problème. Donc, vous vous rendez compte que le changement pour les managers en termes de rôle est extrêmement important. Il y en a qui ont très bien accepté. Il y en a qui n'ont absolument pas accepté cette nouvelle façon de manager. Et donc, ces managers, soit il a fallu qu'on s'en sépare, soit leur donner d'autres types de jobs. Mais fondamentalement, ça a été compliqué pour pas mal d'entre eux. En termes d'organisation des équipes, la façon traditionnelle d'organiser des équipes, sur une vision purement dev, mais ça donne un peu une idée générale, c'est qu'on a, en gros, une vision très fréquente où on a couche d'accès aux données, des API, une interface homme-machine, et très souvent, on structure les équipes comme ça. Donc on est dans une logique dans laquelle on va avoir des équipes qui s'occupent de l'IHM, des équipes qui s'occupent des API, des équipes qui s'occupent des données. Ça, c'est la recette absolue pour créer à la fois d'énormes problèmes en termes de dépendance fonctionnelle, et c'est aussi une très bonne recette pour créer d'énormes problèmes en termes de management de projet. Donc la décision qu'on a prise, c'est de remplacer le découpage horizontal par un découpage vertical. Donc on est dans une logique dans laquelle tous les découpages fonctionnels, il y a évidemment toujours quelques dépendances qui restent, mais l'idée c'est vraiment de faire en sorte que chaque équipe puisse présenter une fonctionnalité qui puisse être au moins utilisée par quelqu'un, parce que même si c'est rien d'autre que poser une question et puis voir l'exécution d'un code, on a la possibilité de démontrer de cette façon chacune des fonctionnalités, plutôt que d'être dans une logique dans laquelle, si on n'accède qu'aux données par exemple, on ne peut rien démontrer de concret. Or, c'est extrêmement important pour une question de reconnaissance des équipes et de valorisation par leur manager, qu'ils puissent, et c'est un point sur lequel je reviendrai, chaque sprint envoyer à la fin, non pas simplement un mail disant « regardez ce que j'ai fait », mais envoyer systématiquement une petite vidéo qui présente une démo de ce qui a été fait pendant le sprint. Et ça, ça change beaucoup en termes de visibilité des équipes. Donc la question qui est posée traditionnellement, c'est qui est le Scrum Master ? Dans nos équipes, on aurait pu penser que c'était le program manager ou que c'était quelqu'un qui était par exemple le dev lead. Non. Dans nos équipes, les scrum masters tournent. Donc chacun peut être à son tour scrum master. Ce qui veut dire évidemment que chacun est formé sur le sujet, mais la règle, c'est qu'il n'y ait pas une personne qui, entre guillemets, devient de facto l'espèce de chef d'orchestre unique. On est vraiment dans une approche plutôt de jazz band leader. Le Scrum Master, il deviendra à un moment donné celui qui joue en solo, mais il deviendra le lendemain, le cas échéant, ou le sprint d'après, le développeur qu'il a toujours été. Donc on est dans cette logique et on n'est pas dans une logique dans laquelle il y a des sortes de personnes spéciales qu'on appelle les Scrum Masters. Une question aussi qu'on nous pose souvent, c'est la question des collaborateurs distants. Comment est-ce qu'on est organisé ? Donc oui, on a des collaborateurs distants. Par exemple, sur Visual Studio, on a des collaborateurs qui développent en France. Mais c'est l'exception et pas la règle. Et en tout cas, quand on a des équipes distantes, on n'a certainement pas une équipe qui, par exemple, ne ferait que du développement ou qui ferait que de la mise en production. Le fameux modèle qu'on trouve dans pas mal de sociétés où on dit « je vais outsourcer en Inde et j'ai les développeurs pas chers que je vais utiliser en Inde », on n'est pas du tout dans cette logique. Si on a des développements en Inde, et on en a, il y a des program managers, il y a des développeurs, il y a des testeurs, il y a des gens qui s'occupent des opérations, qui sont en Inde, et qui s'occupent d'une fonctionnalité comme l'ensemble des autres équipes, au même titre que l'ensemble des autres équipes. Mais on n'est pas dans une logique en mode « je mets tous les développeurs parce que c'est moins cher ailleurs ». Ça, d'expérience, parce qu'on a commencé par là, ça ne marche pas. Donc nos sprints sont de 3 semaines, donc en gros, on fait le planning du sprint, à la fin du sprint, c'est fait, et on se donne une semaine pour déployer. On reviendra sur le sujet des déploiements, des multiples data centers, tu en parleras, je crois, tout à l'heure. Donc je ne vais pas insister sur ce point. Donc en début de sprint, on dit ce qu'on va faire. En fin de sprint, on dit ce qu'on a fait, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on accompagne d'une petite vidéo. Donc ça ressemble à ça. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on a fait à la fin, et voilà la petite vidéo. Ça, c'est systématique, c'est toujours comme ça. Et la vidéo est entre guillemets obligatoire. Chacun doit être capable de montrer ce qu'il a fait. En sachant, et je ne vais pas rentrer dans les détails, que pour nous, le sprint, c'est une sorte de cadence permanente. Donc, qu'il y ait des vacances, des gens qui partent en congé, etc., ça ne change pas la cadence. La cadence, elle est ce qu'elle est, quel que soit le moment où les gens partent en vacances. Bah, il y aura moins de choses qui seront délivrées pendant le sprint où les gens sont en vacances. Mais dans tous les cas, on est dans une logique où, effectivement, la cadence reste toujours la même. Alors, toutes les deuxièmes semaines du sprint, on fait une revue du backlog. C'est l'équipe qui s'occupe de ça. L'objectif étant de se projeter dans le sprint d'après pour voir globalement qu'est-ce qu'on envisage de faire, le cas échéant, le sprint d'après. Donc, qu'est-ce qu'on utilise en termes de pratique ? Scrum, oui. Un peu de chute d'eau. On n'a pas complètement coupé le robinet, mais vous allez voir de façon extrêmement minimale. On utilise Kanban sur tout ce qui est tableau de bord, suivi, work in progress, et puis un certain nombre d'autres sur lesquels je ne vais pas rentrer. Donc il y a des règles qu'on suit. On utilise essentiellement la chute d'eau pour le planning d'ensemble. Certains éléments de conception et de spécification, on en fait le moins possible. La seule chose qu'on fait, c'est par exemple les API publics. Ben, c'est quand même mieux de réfléchir un tout petit peu et de les documenter parce que malheureusement, ces API, il y a quand même de bonnes chances qu'elles vont être utilisées pendant 10 ans, 15 ans et que ça sera très difficile de les rendre obsolètes. Par contre, tout ce qui est dedans, tout ce qui n'est pas public, ça, c'est quelque chose qu'on ne spécifie pas du tout. Donc, on utilise Scrum pour le planning, daily stand-up, le fait d'utiliser des écrits cross-fonctionnels, l'utilisation des rétrospectives, Kanban sur tout ce qui est suivi visuel et limitation du work in progress. Puis il y a des règles qu'on viole. On change d'avis très souvent. De temps en temps, on ne fait rien en termes de spécification. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Scrum, on alterne le Scrum Master. On déploie une semaine dans les équipes Visual Studio après le sprint. Il y a des endroits où ce n'est pas le cas. Typiquement sur Azure, on développe et on met en production juste au moment où on a fini. Kanban, on suit, mais on n'utilise pas ça, évidemment, pour tout. Donc, comment est-ce qu'on reste aligné ? Donc, quand on a lancé tout ça, on s'est dit que, de toute façon, il fallait qu'on fasse les choses différemment. D'abord, nous attendre au changement en permanence. Essayer d'arrêter de prévoir le futur et de se dire, voilà ce que les concurrents vont faire, voilà ce que nos clients vont demander. Et puis, se centrer sur le client. Et donc, faire en sorte qu'on récupère les feedbacks de nos clients le plus vite possible et qu'on optimise tout, y compris notre organisation, autour du client. Donc quand on regarde le breakdown, le travail, évidemment, il y a des tâches tout à fait en bas. Et puis tout à fait en haut, il y a un scénario qui est globalement une initiative importante au sein d'une version, au sein duquel il y a un certain nombre d'expériences, qui est un ensemble d'histoires utilisateurs qu'on met bout à bout. Et puis quand on regarde un tout petit peu la façon dont on s'organise, par rapport à ma fameuse pyramide tout à l'heure, tout à fait en haut, scénario, expérience, fonctionnalité, ça c'est quelque chose qui est commun à tous, sur lequel il n'y a pas d'autonomie entre guillemets. Par contre, sur tout ce qui est histoire utilisateur et évidemment les tâches et tout ce qui d'une manière ou d'une autre rentre et sort du backlog, les équipes sont totalement indépendantes. De cette façon, ça permet de garantir qu'on ait un bon alignement sur ce qu'on cherche à faire, la vision globale, quels sont les grands scénarios qu'on cherche à couvrir. Par contre, au niveau des équipes, chaque équipe va avoir la possibilité de choisir comment elle s'organise, comment elle planifie ses tâches, comment elle organise ses histoires. Donc tout ça, c'est évidemment tracé dans Visual Studio. Donc je donne un exemple ici de l'utilisation dans la liste des scénarios. Même chose au niveau des fonctionnalités, en sachant bien sûr que derrière, il y a le board Kanban qui est utilisé pour tracer l'ensemble des opérations en cours. Donc on a dit qu'on avait des sprints toutes les 3 semaines. On a un plan de sprint qui comprend 3 sprints. On a une saison qui correspond à 6 mois, et un scénario qui correspond à 18 mois. Pour essayer de faciliter le niveau de visibilité qu'on donne des équipes vis-à-vis du management, chose extrêmement importante dans une logique de valorisation, de reconnaissance de l'expertise, on organise chaque 3 sprints ce qu'on appelle des chats d'équipe. Donc les chats d'équipe, c'est un moment dans lequel l'équipe va venir présenter à ce que j'ai appelé tout à l'heure le triumvirat, qui en fait dirige l'ensemble de la division, ce qui a été fait avec la volonté de répondre à trois questions. Qu'est-ce qui va être fait après cette période? Comment va l'équipe? Est-ce qu'il y a des problèmes? Et puis sur le plan technique, sur le plan du planning, etc., est-ce qu'il y a des soucis à se faire? Et donc, toutes les équipes individuelles, tous les trois sprints, donc toutes les 9 semaines, vont voir le top management de la division, qui en fait va à la fois donner une visibilité au travail de l'équipe et en même temps commencer à appréhender les éventuelles difficultés, les éventuels problèmes dans les relations humaines, etc. Donc pour rester aligné, on est dans une logique dans laquelle, c'est vrai aussi au niveau d'Azure, on a en gros 2 grands cycles de release, une version dite de printemps, une version dite d'automne. Donc, quand on regarde qu'est-ce que ça veut dire concrètement, on va empiler les sprints dans chacune des saisons. On va faire un planning à chaque 3 sprints, en sachant que ce planning est en permanence glissant. Donc, quand on imagine que, par exemple, les éléments qui sont marqués avec une petite marque correspondent à 3 sprints. Quand on va faire la planification après, on va raisonner sur les 3 sprints d'après. Et quand on décale, eh ben on décale d'un sprint à chaque fois. Donc on a toujours un planning glissant. À chaque fois, on se pose 3 questions. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que nous disent nos clients? Et comment a évolué le marché et la concurrence? Donc ça, ce sont les questions qu'on se pose à chaque fois que l'on fait ces fameux plans de 3 sprints, on se pose toujours cette question, en sachant encore une fois que, je rappelle qu'à chaque sortie de sprint, on met en production. Donc on peut avoir 3 fois des retours clients à chaque fois qu'on se pose effectivement cette question de manière glissante. On a à chaque fois l'accumulation de ces 3 périodes de retours clients. Un des éléments sur lequel on a progressé de manière sensible pendant, on va dire, en gros, les 2 dernières années, c'est la construction d'une culture de delivery. Point très important que j'ai déjà mentionné, on livre chaque sprint. Donc ça, c'est l'état de ce qui a été livré que j'ai pris ce matin. Donc, tous les jours, n'importe qui peut regarder où on en est de la version, donc c'est évidemment une version très synthétique. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on organise, d'une manière générale, le code flow dans la façon dont on met en production toutes ces fonctionnalités. Un des problèmes classiques, c'est que quand on développe du code, donc on imagine ce fameux sprint sur 3 semaines, chacun en général, pour faire son check-in, va créer sa propre branche. Donc on le fait, par exemple, la première semaine, on continue la 2e semaine, la 3e semaine, et à un moment donné, à la fin de la semaine, il faut quand même mettre en production. Donc la question traditionnelle, c'est de dire, ben voilà, il faut que les branches en question, elles convergent. Donc si elles convergent comme ça, il y a quand même de bonnes chances que ça se passe assez mal. Donc une des fonctionnalités que l'on utilise tout le temps, c'est ce qu'on appelle classiquement le feature flipping, qui consiste essentiellement à définir des flags, qui consiste à dire, si le flag est positionné, alors je vais passer dans telle branche de code, si le flag n'est pas positionné, alors je vais passer dans telle autre. Donc l'idée, c'est que quand je suis en mode off, je traverse complètement le code verticalement. Si je suis en mode on, je vais potentiellement passer dans une branche de code qui est une branche qui est en cours de développement, que je vais éventuellement accroître. Mais tant que, vu de l'utilisateur, le drapeau est off, il ne va pas y passer. L'intérêt énorme qui peut paraître un détail, c'est que ça va permettre utilisateur par utilisateur, classe d'utilisateur par classe d'utilisateur. On a donné l'illustration sur Windows tout à l'heure de cette notion d'anneau de déploiement. Ben, cette notion d'anneau de déploiement, ça correspond tout simplement à l'utilisation permanente de ces feature flags. Et donc, on va rendre disponible une fonctionnalité simplement parce qu'on va permettre à certains utilisateurs de passer dans la branche de gauche, de droite, sur le dessin, alors que l'immense majorité des utilisateurs continuent d'utiliser la branche verticale qui traverse la fonctionnalité qui était présente jusqu'à présent. Donc, si je passe le flag à on, alors je vais considérer que la branche normale de code, c'est la branche de droite. Donc, qu'est-ce que ça m'a permis de faire ça ? C'est simplement de mettre en production une nouvelle fonctionnalité pour un certain nombre d'utilisateurs, en sachant qu'évidemment, si je considère que cette branche, nouvelle branche de code, elle fonctionne correctement, que les utilisateurs sont contents, qu'il n'y a pas de bug, etc., je vais évidemment avoir envie de la mettre en production. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais refactoriser le code qui est au milieu, je vais le dégager, je vais le remplacer par le code que j'ai développé qui est à droite, et à partir de là, je vais mettre en production pour tout le monde la nouvelle fonctionnalité, et donc pour prendre le cas de Windows, je serai dans la current branch. Donc ça, c'est un des éléments absolument fondamentaux qu'il faut avoir systématisé dans toutes les approches de développement, parce que c'est la seule façon réaliste de mettre en œuvre du continuous delivery. Donc, est-ce que ça marche ? Parce qu'évidemment, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Alors, quand on regarde ce qui se passait avant, j'ai déjà donné un petit peu une idée de ce que c'était. Donc, on était code complete, puis c'est là que les ennuis commençaient. Donc, ce que vous voyez ici, là, je suppose que vous avez un peu une idée de ce que c'est, bah, c'est tout simplement le nombre de bugs. Donc, le nombre de bugs, évidemment, augmente. Ensuite, comme on commence à corriger les bugs, ça s'arrange un tout petit peu. Ensuite, on repasse dans une phase de code, hop, et puis immédiatement derrière, on recommence de nouveau à générer, malheureusement, encore des bugs. Et donc, en fait, vous voyez que le schéma, conceptuellement, il pose évidemment beaucoup de problèmes. Mais au-delà de ça, dans une logique, parce que c'est très classiquement la question qu'on nous pose souvent, vous passez dans un mode de continuous delivery sur Windows. J'avais l'habitude avant d'installer une nouvelle version de Windows tous les 3 ans, voire dans le cas d'XP, tous les 10 ans. Mais bref, l'avantage énorme de ce mode de fonctionnement, c'est qu'au lieu d'être dans ce mode-là, je vais être dans un mode dans lequel, à chaque fois que je vais en mettre en production un sprint, je vais avoir évidemment un incrément de bugs très limité, parce que j'ai développé pendant 3 semaines. Je ne peux pas avoir produit des tonnes et des tonnes de bugs. Il faut juste être réaliste. Aujourd'hui, on admet que dans un sprint, un développeur a le droit, si j'ose dire, de produire 4 bugs. Au-delà de ça, au niveau du Kanban, on commence à dire qu'il y a des choses qui sont en train de déraper. Mais d'une manière générale, la probabilité de créer de nouveaux bugs dans un tel environnement, est évidemment beaucoup moins importante. Donc, au lieu de faire des grands sauts quantiques une fois tous les 3 ans, par exemple, dans le cas de Windows, parce que je change de version, on va changer beaucoup plus vite, on va avoir des incréments fonctionnels, et la probabilité d'avoir des bugs, surtout après être passé par tous les anneaux de déploiement, elle est extrêmement, extrêmement limitée. Un autre élément très intéressant, sur lequel j'insistais tout à l'heure, c'est la satisfaction de l'engineering. Une des choses qu'on a constatées et qui, enfin, quand moi je l'ai constaté de mes yeux vus, honnêtement, j'ai été extraordinairement surpris. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence statistique significative entre les groupes de développement, leur satisfaction par rapport à l'enquête qui est réalisée chaque année par Microsoft et le restant de l'organisation, typiquement vente, marketing, support, consulting. En gros, les gens ont le même niveau de satisfaction, et ça n'est pas parce que le niveau de satisfaction des ventes du marketing, etc., s'est dégradé, mais parce qu'en fait, tout le monde a été tiré vers le haut. Et c'est vrai que pour des simples raisons évidentes, en dehors du fait qu'on a donné aux équipes beaucoup plus d'autonomie, il y a une chose absolument fantastique et qui marche, c'est que Quand en tant que développeur, vous écrivez le code, ou en tant que en charge de la production, vous mettez en œuvre un service dans le cloud, ce qui vous intéresse fondamentalement, c'est que le moment entre ce que vous avez fait et le moment où les clients vont pouvoir utiliser ce que vous avez fait, si il faut attendre 2 ans ou 3 ans, on se lasse un peu. Et donc, en général, les gens ne sont pas très contents quand ils voient que finalement, ce qu'ils ont fait, pendant 2 ans, ça ne sert à rien. Parce que fondamentalement, c'est quand même ça que ça veut dire. Donc, le fait de pouvoir développer et mettre en production tout de suite, ça améliore de manière considérable la satisfaction de toutes les équipes. Donc, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'autonomie. Ça, c'est le sens. On donne aux gens la possibilité de faire le sens de ce qu'ils développent. C'est-à-dire qu'ils se disent, ce que j'ai développé, ce que j'ai mis en production, ça a aidé mes clients. Et je suis fier de l'avoir fait. Et ça, ça change tout. Je voudrais conclure par quelques remarques. En sachant que je n'ai pas la prétention de vous dire que l'exemple de Microsoft est le seul exemple et qu'il est valable pour tout le monde, c'est absolument pas le cas. C'est un sujet sur lequel on parle bien sûr de technique, mais aussi d'humain, de culture. Donc il faut rester très modeste. Les recettes de Microsoft ne pourront pas forcément vous servir à vous. Il y a un certain nombre de choses certainement qui peuvent être utilisées. En tout état de cause, l'environnement, c'est important. Il faut construire un environnement dans lequel les équipes prospèrent. Il ne faut pas laisser les processus et la bureaucratie barrer la route des gens. Ce qui fait, d'une manière générale, la qualité d'un développeur ou la qualité de quelqu'un qui va assurer en continu la production d'un service dans le cloud, c'est le fait qu'il puisse faire ce qu'il faut. Et honnêtement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens savent ce qu'il faut faire. Il n'est pas forcément nécessaire que leur manager leur dise ce qu'il faut faire. La motivation, c'est un sujet très important. Autonomie, maîtrise, sens, on en a parlé longuement. C'est extrêmement important que les gens soient motivés. Il faut savoir pourquoi les gens travaillent, parce qu'à un moment donné, même si les gens sont très très contents de travailler, il faut aussi savoir globalement quelles sont les règles par lesquelles ils seront évalués, potentiellement mesurés et le cas échéant récompensés, même si encore une fois, c'est un sujet de moindre importance que la motivation. Cette notion de liberté de religion, c'est aussi important. Si vous embauchez des gens qui sont Scrum Master, certifiés depuis des années, vous n'allez pas les forcer à faire autre chose. Par contre, des gens qui ont fait de l'extrême programming, s'ils sont bons et qu'ils arrivent à s'entendre avec les gens qui sont autour et qui font du peer-to-peer programming, pourquoi pas ? Ça ne pose pas de problème. Le tout, c'est que les gens puissent fournir le meilleur d'eux-mêmes. Deuxième série de remarques. Évidemment, la science, c'est-à-dire globalement le développement et les opérations, c'est obligatoire. Il faut que vous soyez bon, il n'y a pas le choix. Mais ne soyez pas trop prescriptif. Laissez aux gens l'autonomie sur un certain nombre de sujets, et en particulier sur les sujets qui les concernent. Laissez-les exceller là où ils sont excellents. Le point que je mentionnais tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas la prétention de dire que ce qu'on a fait est forcément clonable, duplicable, à volonté. Ne cherchez pas à copier les autres. Apprenez des autres. C'est très différent. Et enfin, dernier point qui est peut-être le plus important, tout ce dont on a parlé, ça n'est rien d'autre qu'un énorme changement de culture. Ce changement de culture, c'est ça qui est l'élément sur lequel il faut que vous vous focalisiez. Donc il faut que vous arriviez à construire cette culture et après, vous obtiendrez le comportement que vous voulez. Commencez pas à chercher à imposer des comportements. Faites en sorte que la culture précède cette transformation, en sachant que ça prend du temps. Typiquement, les groupes produits de Microsoft sont à des degrés divers d'avancement. J'ai parlé de Visual Studio. Visual Studio a beaucoup progressé dans ce domaine. Ceux qui travaillent dans les services qui sont mis en œuvre dans le cloud, que ce soit Azure, Office 365, eux, ils sont dans une logique de continuous delivery. Mais autant pour Azure, qui a été construit pour le cloud initialement, ça a été très naturel. Autant pour Office 365, ça a été un peu plus compliqué parce que les gens venaient d'Exchange, SharePoint, Link. Et donc, ils avaient l'habitude de fonctionner avec des fréquences qui étaient complètement différentes. En ce qui concerne Windows, c'est probablement l'équipe où ça a été le plus dur. À la fois parce que Windows, c'est très gros en termes d'équipe. Il y a eu beaucoup de difficultés managériales. Hein. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais il y a eu plusieurs fois les patrons de l'engineering Windows qui ont été débarqués. Donc il y a eu l'épisode Vista, mais il y a eu d'autres épisodes plus récents dans lesquels je ne vais pas rentrer à ce stade. Donc Windows, c'est l'endroit où, pour arriver à Windows 10, et donc cette logique dans laquelle on délivre des nouvelles builds tous les jours, qu'on est susceptible de pouvoir mettre en production tous les jours, ça a été un très, très gros travail. Je pense que dans le cas de Windows, autant pour le reste, je dirais le Visual Studio, ça a pris a priori 2 ans, 3 ans de changer vraiment de culture. Windows, ça a pris 5 ans. Ça a été très compliqué. On y est arrivé. On n'est pas encore parfait dans tout. On a mis en place la télémétrie, qui est un élément fondamental sur lequel je pense qu'on reviendra. Cette notion de toujours mesurer ce qu'on fait, tout le temps, parce que c'est la seule façon qu'on a de s'améliorer. Ça, c'est un élément sur lequel la télémétrie vient juste d'être mise en œuvre sur Windows, avec d'ailleurs beaucoup d'articles, enfin, je ne rentrerai pas dans les détails ici sur la télémétrie et Windows, mais c'est un sujet sur lequel on est encore en train d'apprendre. Donc, je ne vous raconte pas que l'histoire a été facile pour nous. Je ne voudrais pas que vous partiez de cette image, de cette présentation avec l'image de la fameuse route que je présentais tout à fait au départ, bien droite, où tout va bien, on a défini une stratégie, une direction, tout le monde y va. Ça a été plus compliqué parce qu'encore une fois, on parle de changement de culture, pas simplement d'adopter une nouvelle technologie, d'adopter un nouveau langage, d'adopter un nouveau schéma d'architecture. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On est vraiment dans le quotidien des gens, dans la façon dont ils travaillent, la façon dont ils sont organisés, même les pièces dans lesquelles ils travaillent. J'ai parlé du changement et de la transformation avec la suppression des bureaux individuels des développeurs. Tout ça, c'est des transformations. Imaginez un instant que dans vos entreprises respectives, vous dites à votre chef ou au chef de votre chef, bah, dorénavant, tu n'auras plus de bureaux séparés et puis tu n'auras plus ta grosse moquette. En général, c'est compliqué de faire accepter ça. Bah, imaginez que ce soit pareil. Les développeurs avaient pris l'habitude d'être dans leur... Donc, on parle beaucoup de cubes. Chez Microsoft, ce n'était pas des cubes, c'était vraiment des pièces, au sens classique du terme. Mais c'est vrai que la communication entre les gens passait beaucoup plus par le mail ou Skype pour la personne qui était deux bureaux à côté. Et ça, dans une logique de développement agile et de mise en production en continu, où n'importe qui peut être réveillé à 3 heures du matin s'il y a un problème en production, parce que c'est la règle, hein. Que ce soit pour les développeurs, si jamais ils sont responsables d'une pièce de code qui ne marche pas, ou pour les gens qui ont développé un script de mise en production automatique qui, pour une raison ou pour une autre, a eu des vapeurs, chacun est dans le même bateau. Donc quand je parlais tout à l'heure de réussir ou échouer ensemble, c'est une réalité. Merci beaucoup.